Les actualités du sel, Daniel Hillion, au micro de David Alonso.
Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour notre émission mensuelle des actualités du sel. Aujourd'hui avec Anaïs Landou, chargée des projets Impulsion économique, dont nous allons parler dans quelques instants, et de Daniel Hillion, responsable des relations Église. Bonjour Anaïs, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous présenter ce que tu fais aujourd'hui au département des projets du sel ?
Bonjour David, je suis Anaïs comme tu l'as dit et je suis chargée de projet au sein du département des projets du sel. Je suis en charge plus particulièrement de tout ce qui est projet impulsion économique, c'est-à-dire des projets qui sont là pour appuyer les activités économiques non agricoles et je travaille avec mes collègues et tout se passe bien.
Qu'est-ce que c'est des projets d'impulsion économique ? Moi, c'est un terme que je n'entends pas souvent. Là, le sel a lancé une campagne coup de pouce, c'est pareil. Mais c'est quoi les coups de pouce ? C'est quoi ces impulsions dont vous parlez et dont toi, tu as la charge, en fait ? C'est quoi derrière ce mot ?
Alors, en fait, ces deux mots, impulsion économique, ça regroupe tout un tas de projets, divers projets, en fait. C'est vraiment un domaine pour prendre tous les projets qui sont supposés appuyer les activités économiques non agricoles, comme je l'ai dit. Mais ça va regrouper, par exemple, des projets de microfinance, des projets de formation professionnelle, des projets d'équipement, de prêt d'équipement, et voilà.
Avant, le sel avait souvent parlé de microfinance, et là, tu as reprononcé ce mot. Quelle est la place de la microfinance dans les projets impulsion économique ? C'est la même chose ? C'est un morceau ? C'est quelque chose d'à côté ? Où tu le situerais ?
Alors, les projets microfinance font partie des projets impulsion économique. C'est vraiment un domaine à l'intérieur. Avant, on avait le domaine juste microfinance, mais au final, on s'est rendu compte qu'on avait divers projets qui, au final, avaient la même finalité. C'était vraiment aider les gens à devenir financièrement autonomes. Et on s'est dit, c'était plus simple de les regrouper parce que, comme je l'ai dit, c'était la même finalité, le même but.
Alors, quand je t'écoute, je pense à toutes ces organisations qui sont souvent dans le développement, et nous les premiers, et j'ai le sentiment qu'une des intentions derrière ces projets, c'est de n'être là qu'au débarrage de quelque chose, et ensuite que les gens puissent s'émanciper, trouver eux-mêmes, en fin de compte, leurs capacités. Comment est-ce que vous réalisez ça ? Parce qu'à l'évidence, c'est quand même quelque chose de très difficile à mettre en œuvre.
Oui, totalement. Souvent, justement, lorsqu'on finance un projet, on essaye bien de vérifier que ce projet-là, par la suite, il va se terminer, parce que le but d'un projet, c'est qu'il ait un début, un démarrage et aussi une fin, et que par la suite, justement, les bénéficiaires du projet puissent s'en sortir par eux-mêmes. Donc, on est vraiment là pour les aider au début, mais ensuite qu'ils puissent devenir autonomes par la suite.
Tu peux me donner des exemples de différents moyens financiers mis en œuvre dans le cadre des projets impulsion économique ?
Oui. Alors, on enlève tout ce qui concerne la microfinance, mais par exemple, la formation professionnelle, c'est quelque chose qu'on souhaite mettre en avant maintenant avec tout ce qui est le domaine impulsion économique. Et c'est un très bon moyen, justement, d'aider les gens par la suite à devenir autonomes, parce qu'on par la formation professionnelle, ils peuvent apprendre un métier, c'est-à-dire acquérir des compétences, des connaissances aussi, et qui peuvent justement valoriser sur le marché du travail.
Est-ce que ça recouvre aussi des achats de biens ?
Oui, bien sûr, il y a aussi l'achat de biens, et souvent on parle de prêts même d'équipement. Et j'ai l'exemple d'un partenaire qui justement au Burkina, dans le cadre de son projet, il a prêté des équipements à des femmes par la suite, et elles ont pu se lancer leur activité de tissage.
Alors, tu parles de prêt. Le prêt est systématiquement remboursé ?
Oui, dans la plupart des cas. Dans la plupart des cas, normalement, un prêt doit être remboursé. Et pour les prêts d'équipement, c'est pas l'équipement qu'on va redonner. En général, c'est les premiers bénéfices qu'on reverse justement à l'association qui nous a prêté l'équipement.
D'accord. Daniel, cet engagement que fait le sel, il le fait aussi avec un certain regard finalement sur cette activité qu'on est en train de financer, un certain regard sur le travail. La réalité, c'est qu'on est en train de financer de la mise au travail de population, on est en train de les former, on est en train de leur permettre d'investir. Quel est le regard aujourd'hui qu'en tant que chrétien nous pouvons poser sur ce travail ?
Oui, effectivement, le SEL, qui veut être une action chrétienne dans un monde en détresse, essaye d'inscrire l'ensemble de ses actions dans un cadre biblique. Et la Bible peut éduquer notre regard sur le sujet du travail. La vision biblique sur ce sujet est assez nuancée, je pense. Peut-être que parfois on imagine que la Bible a une vision négative du travail parce qu'on pense à l'idée que à partir de Genèse 3, tu vas travailler la terre à la sueur de ton front, et comme si le travail avait commencé là. Mais en fait, le travail commence pas là. Ce qui commence avec la désobéissance à Dieu, c'est le caractère pénible du travail. Mais le travail en lui-même est connoté de manière positive dans la Bible. Et peut-être que la meilleure preuve ou le meilleur exemple qu'on puisse en donner, c'est Jésus lui-même. Jésus qui a été connu comme étant le fils du charpentier, et le charpentier lui-même, il a exercé une activité artisanale, génératrice de revenus, dans le temps où il était, une grande partie du temps où il était sur la terre. Après, ce qu'il faut dire, c'est que dans un monde marqué par le péché, par les conséquences du péché, le travail est devenu pénible, mais du coup, il est aussi devenu un lieu privilégié dans lequel vivre l'amour du prochain, et notamment l'amour du prochain pauvre.
Aujourd'hui, le SEL, en fait, encourage les pauvres à se remettre au travail ou à se mettre au travail. Anaïs, dans les projets que tu vois, est-ce que tu peux nous citer des exemples, justement, de personnes qui, grâce à un soutien financier, un investissement de matériel, une formation, ont pu développer une capacité à travailler ?
Oui, tout à fait. Ben, dans un projet qu'on soutient au Mali, parce que c'est encore le cas, on a des jeunes justement qui ont bénéficié d'une formation professionnelle. Je peux citer ces jeunes garçons qui ont reçu une formation professionnelle en tout ce qui est mécanique. Et aujourd'hui, justement, ça leur permet de travailler quelque chose qu'ils n'imaginaient pas auparavant. Et c'est déjà un grand pas pour eux.
Aujourd'hui, on est dans le cadre d'une campagne où on a besoin de soutien sur ce sujet. Qu'est-ce que va permettre notre soutien, les dons qu'on va recevoir ?
Alors, les dons qu'on va pouvoir recevoir au travers de cette campagne vont permettre de financer de la formation professionnelle, des prêts d'équipement ou même des fois des dons d'équipement dans le cadre de certains projets. Ça va permettre aussi de mettre en place des groupes d'épargne et de crédit.
J'entends les mots épargne, j'entends les mots crédit. Dans nos pays riches, en fait, on épargne souvent beaucoup et on est sur des situations où très souvent les gens ont beaucoup plus que ce dont ils ont besoin pour vivre. Le travail aujourd'hui, est-ce que c'est uniquement pour couvrir nos besoins ou est-ce que c'est aussi un moyen de s'enrichir, Daniel ?
Dans le cas des partenaires du SEL dans les pays en développement, l'idée c'est d'abord et avant tout que les personnes qui bénéficient des projets d'impulsion économique puissent répondre à des besoins très basiques. Avec l'argent qu'ils vont pouvoir dégager de leurs activités économiques, ils vont pouvoir contribuer à la scolarisation de leurs enfants ou bien encore à la prise en charge de soins médicaux. Après, c'est pas quelque chose qui est foncièrement un problème si on va au-delà de la satisfaction des besoins immédiats et de manière un peu plus conséquente, les conditions de vie d'une population peuvent s'élever. Mais dans le cadre de ces projets impulsion économique, il faut d'abord penser à des besoins qui, en tout cas pour nous, paraîtraient être des besoins très basiques.
Quand je vous entends tous les deux, en fait, vous êtes en train de nous dire que permettre des projets d'impulsion économique, c'est une façon d'aimer notre prochain.
Oui, et je pense qu'on pourrait compléter par rapport à certains aspects bibliques sur le fait que certains passages de la Bible, notamment dans l'Ancien Testament, peuvent nous inspirer sur le rôle que l'aide à produire de la richesse peut prendre dans une organisation de la société qui vise au bien de tous. Je pense à cette loi de l'Ancien Testament qu'on appelait la loi du Jubilé, qui spécifiait que chaque famille pouvait revenir dans sa propriété au bout d'une certaine période, une cinquantaine d'années. Et je crois que contrairement à ce qu'on dit parfois, la loi du Jubilé, c'est pas exactement une loi de redistribution des richesses, mais c'est une loi de redistribution des moyens de produire la richesse. Parce que la terre était un moyen de produire ce qui permettait de vivre de son activité. Et un théologien mennonite qui s'appelle Ron Sider a suggéré que dans beaucoup de contextes aujourd'hui, ce qui serait l'équivalent de cette redistribution des terres, ce serait l'accès à l'éducation pour tous. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de cas, l'éducation, c'est le moyen de pouvoir produire de la richesse. Et c'est pour ça que dans les projets Impulsion économique, il peut y avoir de l'alphabétisation ou de la formation professionnelle.
Il y a de l'alphabétisation ou la scolarisation en effet direct ou indirect des projets Impulsion économique, Anaïs ?
Oui, tout à fait. Ben, il y a des projets spécifiquement dédiés à l'alphabétisation, comme l'un de nos partenaires au Burkina, justement, qui a mis en place un programme d'alphabétisation et par la suite de formation pour des jeunes adultes. Et ça a très bien marché.
Merci beaucoup Daniel, merci beaucoup Anaïs. Je vais laisser la dernière parole à Daniel sur une actualité à venir. La journée du sel est en train de s'approcher de nous, Daniel.
Oui, comme chaque année, le sel propose aux églises de réserver un dimanche pour penser aux populations qui vivent dans la pauvreté, pour prier pour elles et pour se mettre à l'action. Alors ça fait maintenant quelques années que nous sommes sur ce thème de la responsabilité face à ceux qui vivent dans la pauvreté. Et cette année, nous voulons encourager chacun et chacune ici en France à se saisir de cette responsabilité, à faire sa part et à se rendre compte qu'il en faut peu pour rendre heureux.